Religion du monde. Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans l'actualité des religions, on retiendra la phrase du pape François prononcée dans l'avion qui le ramenait à Rome après son voyage en Afrique. François qui a déclaré ne pas avoir peur d'un schisme, faisant référence aux critiques venant des États-Unis. Et puis en France, le retour sur le devant de la scène du prédicateur musulman Tariq Ramadan, 10 mois après sa sortie de prison pour viol présumé, avec la sortie de son livre « Devoir de vérité ». Il est venu s'exprimer au micro de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV. Et la sortie, dans quelques jours, le 18 septembre, chez Fayard, du livre « L'affaire Ramadan, sexe et mensonge, la chute d'une icône » de Bernadette Sauvaget, journaliste à Libération en charge des religions et de la laïcité. Et nous ouvrons avec la petite phrase du pape. On sait que sur la question de l'accueil des migrants, sa critique du capitalisme néolibéral, sa critique de la rigidité en matière de morale, on sait que le pape François rencontre des oppositions vives, surtout dans le milieu conservateur américain. Un livre d'ailleurs vient de sortir chez Bayard sur ce sujet. Au titre évocateur, l'Amérique veut changer de pape. Ce livre est signé Nicolas Senez, qui est le correspondant permanent du quotidien La Croix au Vatican. C'est dans ce contexte qu'un journaliste du New York Times a demandé dans l'avion au pape s'il craignait effectivement un schisme dans l'église américaine où ses sujets divisent. La réponse du pape mérite un éclairage. Et avec nous en ligne, Éric Sénanque. Bonjour Éric.
Bonjour Geneviève.
Alors, c'est la première fois que cette question des oppositions au pape est posée de façon aussi forte quand même.
Oui, de cette manière, c'est la première fois, l'évocation du mot schisme, qui est quand même très fort, c'est la première fois qu'on l'entend lors d'une conférence de presse à bord d'un avion, la traditionnelle conférence de presse de retour de voyage, où le pape François, tous ces mots sont étudiés et pesés, étudiés à la loupe. Cette question d'un schisme éventuel, elle est posée parce que, vous l'avez dit dans l'introduction, il y a des fortes tensions, notamment au sein de l'Église américaine, d'une partie de l'Église américaine et vent debout contre les positions du pape François. Certains évêques n'ont pas eu peur d'ailleurs de dire clairement haut et fort que le pape François, le souverain pontife, avait tendance à trop parler d'accueil des migrants par exemple, et devait plutôt se resserrer, on va dire, sur les questions qui portent au magistère, sur la morale sexuelle par exemple, ou sur la défense des valeurs familiales. On sait que ce sont des valeurs portées très, très régulièrement dans les discours de l'Église américaine. Alors, le pape s'est défendu en disant que, évidemment, ces critiques, il les entendait, il les suit depuis, on va dire, au moins une bonne année, puisque l'an dernier, ces critiques se sont cristallisées autour de la lettre de l'ancien nonce apostolique aux États-Unis, Mgr Vigano, qui a aussi, derrière lui, coalisé certains évêques américains en opposition à François. Le pape François est très conscient de ces critiques et il a dit que ces critiques étaient aussi trouvées des relais dans la curie, mais il semble que malgré toutes ces tensions, malgré toutes ces divisions, le pape François reste relativement serein.
Alors, est-ce que sa réponse, c'est un peu le même papeur, est-ce que cela veut dire qu'il maîtrise la situation? Est-ce que ça veut dire qu'un schisme effectivement est possible? Est-ce que c'est une façon de dramatiser la situation? Comment exactement l'interpréter?
Alors, c'est sûr qu'un schisme, j'allais dire, est possible historiquement. L'Église en a vu de nombreux dans son histoire. D'ailleurs, le pape François s'est fait fort de le rappeler dans l'avion de son retour d'Afrique. Mais le pape François semble particulièrement serein face à cette crise. Le pape François entend les critiques, mais selon lui, les choses peuvent se régler, les conflits peuvent se régler en douceur, a-t-il dit. Le pape François explique que ces critiques violentes qui touchent sa personne viennent d'une mauvaise interprétation, de gens qui sont souvent blessés. Et le pape François a rappelé que finalement toutes les critiques étaient acceptables, si tant est qu'elles soient des critiques constructives.
Ça, c'est très jésuite, Éric Sénanque.
Oui, absolument. Là, c'est le pape jésuite qui parle, cette espèce de dialectique, aller chercher dans les arguments de l'autre une position pour essayer de raisonner. On sent bien, évidemment, toute la filiation intellectuelle et spirituelle du pape argentin et de ce pontificat.
Je vous remercie, Éric Sénanque, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes le correspondant de RFI au Vatican. Merci.
Tariq Ramadan, vous avez menti. Vous avez menti.
Oui.
Oui, vous avez menti. Parce que vous avez nié toute relation sexuelle avec Manda, Madame Manda Ayari et avec Christelle. Vous avez donc menti avant d'admettre des relations consenties. Pourquoi est-ce que vous avez menti ?
Alors c'est vrai. C'est vrai que je suis arrivé, après l'avalanche médiatique, je suis arrivé devant la police et je savais, je voyais que, en l'occurrence, tout ce que je disais était immédiatement rapporté par la presse. J'ai voulu me protéger et protéger ma famille. C'était une erreur. J'aurais dû dire la vérité. Mais mon mensonge, Jean-Jacques Brodin, est complètement différent du mensonge de femmes qui disent avoir été violées. Parce que s'il fallait mettre en prison tous ceux qui ne disent pas la vérité sur leurs relations consenties et leur vie privée, il faudrait mettre en prison la moitié du peuple de France.
La voix de Tariq Ramadan sur BFM TV le 6 septembre dernier. Tariq Ramadan qui répondait au journaliste Jean-Jacques Bourdin. Avec nous en studio, Bernadette Sauvaget, auteure du livre « L'affaire Ramadan, sexe et mensonge, la chute d'une icône », livre qui sort le 18 septembre prochain. Bernadette Sauvaget, bonjour.
Bonjour.
Vous vous êtes lancée dans une enquête particulièrement minutieuse sur l'itinéraire de Tariq Ramadan, son ascension médiatique, son aura aussi auprès des jeunes, et puis sa chute à l'automne 2017 avec deux plaintes pour viol présumé qui ont été déposées. Cette histoire, vous dites, elle est encore en train de s'écrire, elle est encore en état d'écriture et on n'en mesure pas complètement la portée. Alors, rappelez-nous déjà l'histoire judiciaire de cette affaire Tariq Ramadan.
Alors, l'affaire Tariq Ramadan démarre le 20 octobre 2017. Nous sommes dans le contexte de la Prevenstein, du mouvement MeToo et Balance ton port, ce 20 octobre 2017, quand Enda Yari, qui se présente comme une ex-salafiste, écrit sur les réseaux sociaux que son agresseur, à elle, c'est Tariq Ramadan. Dans la foulée de l'après-midi, elle dépose plainte auprès du procureur de Rouen. Et dans la foulée, une semaine plus tard, une deuxième plainte arrive, qui, elle, est déposée par Christelle, et qui accuse également Tariq Ramadan de l'avoir violé le 9 octobre 2009 à l'hôtel Hilton de Lyon. Pour ces deux affaires, Tariq Ramadan a été mis en examen. Il dément les faits. Il dit, lui, après avoir réfuté le fait d'avoir eu des relations sexuelles avec ces femmes pendant un an, il a été contraint dos au mur après la révélation d'un certain nombre d'éléments au cours de l'enquête. Il a reconnu des relations sexuelles avec ces deux femmes, mais lui, il plaide que ces relations sont consenties. À ces deux plaintes sont venues s'ajouter une troisième, celle déposée par Mounir Abouge en mars 2018, et une quatrième, dont on, voilà, pour le coup, on ne connaît pas l'identité de la plaignante, qui est arrivée, qui a été transmise au procureur de la République à la mi-juillet 2019, qui est la plus grave, puisqu'elle concerne un viol en réunion. Cette plaignante, dont on ne connaît pas l'identité, enfin publiquement l'identité, l'accuse aussi d'avoir fait pression sur elle après sa sortie de détention provisoire en janvier 2019. Il y a une cinquième plainte en Suisse, une femme aujourd'hui âgée d'une cinquantaine d'années, enfin au début de la cinquantaine, que la presse a appelée Brigitte, qui, elle, a porté plainte en avril 2018. C'est un volet suisse à cette affaire.
Alors, vous parlez très souvent dans le livre, Bernadette Sauvaget, de pratiques sexuelles hors normes. Effectivement, c'est extrêmement cru, tout ce qui est dit par ces jeunes femmes. Il y a un sadomasochisme avéré.
Alors, ce dont a convenu Tariq Ramadan, c'est des relations dominant-dominées. Et il ne veut pas qu'on emploie le terme sadomasochiste parce que pour lui, ça voudrait dire qu'il y a un plaisir à infliger la souffrance, donc un plaisir à la violence, ce qui soutiendrait un plaisir à la violence. Donc lui a reconnu des relations dominant-dominées. Effectivement, enfin, je crois que on a tous été très frappés, très gênés, très bouleversés aussi, quand ces femmes ont commencé à raconter ce qui s'était passé dans l'intimité des chambres d'hôtel.
La violence de cette nuit dans cette chambre d'hôtel de Lyon, ce que Christelle vous raconte, c'est incroyable.
Alors, elle me raconte pas à moi d'abord, raconte, c'est raconté qu'au moment où elle dépose la plainte dans un article du Monde qui fait vraiment sensation à ce moment-là. Autant la plainte d'Endayari fait un coup de tonnerre, mais le choc, il est le 27 octobre 2017, quand Christelle porte plainte et qu'il y a ces éléments très précis des pratiques sexuelles de Tariq Ramadan, des sodomies très violentes, des fellations très violentes. Voilà, il aime uriner sur les femmes, toutes ces choses-là. Il aime leur flanquer des claques. Enfin, c'est ce qu'elle raconte en tous les cas.
Les frapper. Il aime les frapper.
Il aime les frapper, les humilier, les traiter d'un nom très violent.
Il y a donc ces femmes qui ont parlé, mais en fait, en lisant votre livre, Bernadette Sauvager, on se rend compte que les réseaux sociaux fonctionnent aussi. Et les réseaux sociaux vont venir en soutien, ou en tous les cas, oui, aider ces femmes à parler.
Alors, l'histoire de la double vie de Ramadan, elle est connue depuis une dizaine d'années, dans des cercles qui restent restreints. Moi qui travaille sur les questions de religion et de laïcité depuis une vingtaine d'années, moi qui ai rencontré pour la première fois Tariq Ramadan dans les circonstances professionnelles en 1999, je n'avais jamais entendu parler de ces rumeurs. Qu'est-ce qui se passe aux alentours de 2008-2009? Il y a un blog en Belgique tenu par un monsieur qui s'appelle Ralil Zigendi, qui est allé assister à des conférences de Tariq Ramadan et qui est assez critique sur le discours et la personnalité de Tariq Ramadan. Et qu'est-ce qui se passe? Ce sont des femmes qui, finalement, voyant l'aspect critique qu'a Ralil Zigendi, elles viennent poster des commentaires.
Elles s'autorisent.
Et à ce moment-là, effectivement, elles se connectent, elles commencent à se connecter entre elles. Ce qui fait dire aujourd'hui à Tariq Ramadan qu'il est victime d'un traquenard monté par toutes ces femmes.
D'un complot,
voilà. Ce que dit la Pelliang belge par rapport à ses blogs. Alors elle dit qu'elle n'est pas allée sur le site de Ralil Zegandi, dont elle a eu connaissance malgré tout. Mais voilà, Brigitte, la Pelliang belge, voilà, pour contrer cette théorie du complot, elle dit ses blogs m'ont sauvé la vie parce que je n'étais pas la seule à qui c'était arrivé.
La peur, l'omerta, c'est très présent dans votre enquête. On a quand même le sentiment que des personnes ne vont pas parler, ne vont pas lâcher ce qu'elles savent, parce que Tariq Ramadan a un vrai pouvoir, un pouvoir de fascination déjà.
Alors je crois que pour bien comprendre cette histoire, donc il y a ces femmes qui se retrouvent sur ces blogs, et ensuite il y a des rumeurs qui courent sur la double vie de Tariq Ramadan. Il y a des cercles très très restreints qui connaissent depuis 2009 quelques autres histoires violentes, en tous les cas qui ont donné lieu à des pratiques sexuelles violentes. Il y a des cercles très restreints qui les connaissent à partir de 2009. Ces cercles restreints considèrent voilà que en l'absence d'une plainte, on ne peut pas faire davantage.
Les SMS aussi sont importantes hein, dans ces dossiers. Ces messages donc ont été épluchés par la justice. Et effectivement, ils font apparaître quand même des ambiguïtés, des contradictions. Par exemple, certaines jeunes femmes, je ne sais plus, je crois que c'est Christelle, c'est ça. Bon, on a quand même l'impression que finalement, après le viol, eh bien, il y a des messages qui ne correspondent pas hein, avec ce qui s'est passé, ce qu'elle raconte après.
Alors, Christelle, effectivement, il y a eu un problème de datage de tous ces échanges de SMS. Ce qu'il ne faut pas oublier quand même que ces SMS établissent le caractère trouble de cette relation, le caractère sexuel de cette relation, alors que Tariq Ramadan niait avoir eu des relations sexuelles avec Christelle. Hein. C'est bien parce que ces SMS ont été
mis
au grand jour qu'il a été contraint de reconnaître ces relations. Moi, je crois que c'est vrai que elle, en tous les cas, elle s'expliquera devant les juges dans les semaines qui vont venir là-dessus. Ce que dit son avocat et voilà, quelques confidences que j'ai pu avoir d'elle. Elle dit, mais j'ai envoyé ces messages pour être sûre qu'il ne viendrait pas me poursuivre chez moi. Je lui ai donné ce qu'il attendait pour être tranquille, pour être en sécurité. Voilà, après, ça, ce sera à la justice de trancher dans les versions de l'un et de l'autre. Bien évidemment, Tariq Ramadan n'est pas jugé. il est présumé innocent. Il y a ces versions qui sont des versions divergentes, et au cœur de cette affaire, je crois que il y a cette question de la relation d'emprise, il y a cette question qui est taraudante dans les affaires de viol du consentement. Je crois qu'il faut redire aussi, il y a seulement 10% des plaintes pour viol qui aboutissent à des condamnations, tellement ce sont des affaires très compliquées où les preuves sont très difficiles à établir. Le parcours des femmes qui portent plainte pour viol, qui portent plainte pour des violences sexuelles, est vraiment terrifiant. Au-delà de savoir qui est coupable, qui ment dans cette affaire.
Mais à cela s'ajoute la fascination.
Je crois qu'effectivement,
que ces femmes avaient pour Tariq Ramadan, hein, pour le prédicateur, le théologien, l'orateur, l'homme qui, sur un plateau de télévision, arrivait à assommer tous ses adversaires. Faut quand même le dire, ça.
Ah oui, je crois qu'on l'a vu encore très, très récemment. Je crois qu'il faut pas oublier une chose. Cette affaire est très difficile à comprendre si on oublie le rôle, la fascination, l'aura qu'avait Tariq Ramadan dans ces années-là.
Rappelons-les, justement, ces années-là.
Alors, Tariq Ramadan apparaît dans le paysage, sur la scène musulmane française, au milieu des années 90. Il va être le porte-parole officieux des deuxième et troisième générations, pour lesquelles la place sociale va être compliquée à prendre, parce que c'est la crise. C'est la crise économique et sociale. Ils sont issus des quartiers populaires. Donc, c'est l'échec de la marche des beurs. Et donc, Tariq Ramadan va arriver en leur donnant ou redonnant une fierté de leurs origines. Enfin, moi, j'ai appelé ça la Muslim Pride, la fierté d'être des musulmans. Il a été le porte-parole officieux de ces deuxième et troisième générations, parce que lui-même... Alors c'est un bourgeois de Genève, cultivé, qui a fait des études. Était un neurochirurgien très réputé au niveau européen. Enfin, c'est une famille bourgeoise. Il n'a pas connu les quartiers populaires. Ce sont les réseaux lyonnais qui vont lui faire découvrir cette réalité-là. Et il va être le porte-parole de cette jeunesse-là, avec ce discours de réassurance de l'identité pour ces jeunes, avec cet art de profiter des polémiques qu'il va susciter. C'est un rhétoricien redoutable, qui met KO régulièrement ses interlocuteurs ses détracteurs, ses débatteurs, je sais pas comment on dit, sur les plateaux de télévision ou dans les studios de télé.
Il s'est quand même fait coincer, si je puis dire, par Nicolas Sarkozy sur la question de la lapidation, quand il a dit voilà, il faut un moratoire.
Bien évidemment qu'il s'est fait coincer. Bien évidemment qu'il a été mis en difficulté par Nicolas Sarkozy, mais c'est à double tranchant, parce que à la fois en choisissant cet interlocuteur-là, Nicolas Sarkozy, qui est à ce moment-là ministre de l'Intérieur, il choisit avec qui il choisit de débattre. Il choisit de débattre avec Tariq Ramadan. Il choisit pas de débattre avec Dalil Boubaker ou je ne sais quel notable musulman français. Il choisit de débattre avec Tariq Ramadan. Donc il adoube d'une certaine manière aussi Tariq Ramadan. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, effectivement, il lui fait mettre un genou à terre, mais en même temps, il l'adoube.
C'est-à-dire qu'il met aussi en même temps, sur la place publique, le double discours, ce qui lui a souvent été reproché à Tariq Ramadan.
Moi, je ne me prononcerai pas sur le double discours. Je pense que il n'y a pas de double discours. Devant Jean-Jacques Bourdin, Tariq Ramadan, on va dire ça de façon un peu humoristique, émet quasiment une fatwa au sujet de la sodomie. Jean-Jacques Bourdin lui demande de s'expliquer sur le fait qu'il a condamné publiquement la sodomie dans ses conférences, alors qu'il l'a pratiqué. Il l'a pratiqué même très violemment, d'après les témoignages des différentes femmes qui sont dans le dossier. Et devant Jean-Jacques Bourdin, il est un peu pris de court et il dit en fait qu'il évoquait les avis musulmans divergés sur cette question.
Ah oui, géométrie variable, quoi.
Voilà, mais surtout qu'il y a un blogueur marseillais qui a posté un petit montage vidéo il y a quelques jours, qui reprend voilà une conférence publique de Tariq Ramadan il y a quelques années où il condamnait strictement la sodomie.
Quelles seront, Bernadette Sauvaget, les conséquences de cette affaire Ramadan? Est-ce que vous pensez qu'il pourra s'en remettre? Est-ce que pour la communauté musulmane, ça n'est pas une forme, j'allais presque dire, de message indirect? Ne choisissez pas forcément des leaders vis-à-vis desquels vous accordez une confiance totale. D'une façon générale, il ne faut jamais accorder une confiance totale à ces leaders. Quel message pour la communauté musulmane?
Alors, ce qui est évident, c'est que ces réseaux historiques l'ont abandonné, et l'ont abandonné très discrètement, mais ça a été documenté, au printemps 2018. C'est-à-dire au moment où les relations extra-conjugales ne faisaient plus de doute. Donc Yamine Makri, qui a été son principal lieutenant en France, est en voyage à l'étranger et il appelle début avril une cinquantaine de dirigeants des réseaux fréristes en France pour dire si, voilà, il y a cette double vie de Tariq Ramadan.
Les réseaux fréristes, puisque bon, Tariq Ramadan est affilié aux Frères musulmans.
Alors, il est le petit-fils du fondateur de la confrérie des Frères musulmans. Lui-même, d'après ce qui est effectivement documenté, n'est pas membre effectif de la confrérie, contrairement à son frère Annie. Mais c'est vrai que la pensée de Tariq Ramadan est une pensée qui est imprégnée de la pensée de son grand-père. C'est une pensée, on va dire, remixée, pensée frériste remixée dans le contexte de l'Europe occidentale. Effectivement, avec ce livre, avec cette interview avec Jean-Jacques Bourdin, Tariq Ramadan s'est lancé dans une stratégie de reconquête. Je crois que, à titre personnel, je pense que ça va être extrêmement difficile. Déjà, alors qu'elle avait été extrêmement discrète, la branche française des Frères musulmans, c'est-à-dire musulmans de France, l'ex-UOIF, a publié très récemment un communiqué en disant qu'elle se sentait trahie par Tariq Ramadan, qu'il y avait eu un écart béant entre ce qu'il prônait publiquement et ce qu'il avait caché de sa double vie. Je crois que vraiment, en prenant cette position, Musulmans de France et la branche française des Frères musulmans a bien marqué qu'elle s'opposerait à un retour sur la scène musulmane de Tariq Ramadan.
Dans l'article que vous avez publié, Bernadette Sauvaget, dans Libération, sur donc l'affaire Ramadan, vous commencez en le décrivant, hein, en disant voilà, c'est quand même un homme qui a perdu de sa superbe, qui a maigri, qui est manifestement physiquement marqué par cette affaire, même s'il la nie, même s'il se prend pour le capitaine Dreyfus, etc., attaqué, il est très marqué par cette affaire.
Alors oui, il est très marqué, la barbe, les cheveux ont blanchi, la voix
a changé.
Ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il a un voile sur la voix qui n'existait pas auparavant. Mais quand même, hein, Tariq Ramadan qui dit qu'il souffre, qu'il a terriblement souffert de sa sclérose en plaques. On voit bien quand même qu'il a, voilà, je ne sais pas si elle s'était aggravée ou non en prison, mais en tous les cas, il marche normalement. Certes, hein, il a pris, il y a des marques, mais quand même, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est d'abord totalement retrouvé son art rhétorique, sa superbe, sa combativité, sa pugnacité, et qui visiblement, physiquement, se porte plutôt bien.
Je vous remercie, Bernadette Sauvaget. Donc, je rappelle le titre de votre livre, L'affaire Ramadan, Sexe et mensonges, la chute d'une icône, c'est chez Fayard, et le livre sort en librairie dans 3 jours, le 18.
Vous pouvez réécouter Religion du Monde sur www.rfi.fr.
Dans cette seconde partie de Religion du Monde, nous prenons la mer avec le père Thomas Ziegler. Pendant 10 ans, il a sillonné les mers du monde comme aumônier des paquebots de croisière. Sur les paquebots, des flottes Costa Croisière, Royal Caribbean, Pullman Tour, Croisière de France et bien d'autres encore. Tous les soirs, il prenait dans sa cabine des notes qui sont devenues la matière de son premier livre, Les bateaux de l'éphémère, un curé à bord, c'est son titre, écrit avec Charles Wright et publié aux éditions Salvator.
Père Thomas Ziegler, bonjour.
Bonjour.
Alors, la première question qui vient à l'esprit, que vient faire un curé habillé en clergyman à bord de ces paquebots géants destinés uniquement au divertissement?
Eh bien, il vient tout simplement écouter les membres d'équipage, les passagers, les accompagner à bout de chemin. Pour les passagers, ce sera très court, effectivement. Mais pour les membres d'équipage, ça peut aller jusqu'à 8 à 10 mois. Surtout que si on reste à bord, si le prêtre reste à bord longtemps, d'année en année, eh bien, il va retrouver les mêmes membres d'équipage de contrat en contrat. Donc, ça permet vraiment un suivi des membres d'équipage. Mais on remarque aussi très vite qu'il y a des passagers qui sont des fidèles et qui reviennent. Donc, on retrouve aussi des passagers de croisière en croisière.
Alors, vous n'étiez pas destiné à être un curé de paquebot, c'est quand même d'ailleurs un apostolat original.
Oui.
Vous êtes alsacien,
oui.
Votre famille est une famille de vignerons, donc
oui.
A priori, rien ne vous destinait à sillonner les mers. C'était l'occasion, un hasard, d'un voyage, il y a une vingtaine d'années.
Tout à fait, en 1999 en fait. Et j'ai répondu à un appel d'un groupe de rock chrétien américain que j'avais rencontré en 97, lors des Journées mondiales de la jeunesse à Paris. Et donc, j'ai pris du temps pour découvrir Miami avec eux. Et j'ai vu ces bateaux de croisière qui étaient déjà à l'époque très très grands. Il y avait notamment le Norwell Lex-France qui à l'époque était le plus grand bateau du monde pendant des années et des années. Aucun bateau ne l'a surpassé. Et maintenant, bien sûr, il est au cimetière comme tout le temps, chacun le sait. Et donc j'ai découvert ça, je me suis laissé interpeller en fait, j'ai ressenti un appel, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette structure énorme, comment on y vit et comment on y travaille. Et donc j'ai fait ma première croisière comme ça, en essayant de regarder comment ça fonctionne, et très vite je me suis interrogé mais quelle est la position de l'Église vis-à-vis de cette industrie? Et qu'en pense l'Église? Et que fait l'Église pour ces hommes et ces femmes qui y travaillent? Et donc, pendant 3 ans, j'ai endossé l'uniforme de Costa Croisière. Je faisais partie de l'état-major. Et j'avais un bureau avec des DVD, avec des ballons de foot, avec des revues. Je m'occupais du courrier aussi. Il n'y avait pas encore trop Internet à cette époque-là. Et donc, voilà, je m'occupais de cet équipage et très vite, je me suis rendu compte au bout de 3 ans que, voilà, le fait d'avoir un uniforme, d'être classé parmi l'état-major, les 7 donc plus haut gradés, n'apportait pas pleinement satisfaction pastoralement. Et donc, j'ai arrêté cette expérience au bout de 3 ans. Et par la suite, j'ai eu l'occasion, après 3 ans, dans un hôpital psychiatrique où j'étais l'aumônier en Alsace, j'ai eu l'occasion de repartir avec Croisière de France. Le Royal Caribbean, qui avait acheté Pullman Tour, avait demandé la création d'une compagnie française avec un bateau qui s'appelait le Bleu de France. Et là, j'ai pu expérimenter une aumônerie au long cours, où le prêtre n'avait pas l'uniforme et se promenait simplement avec son clergyman. Il était là gratuitement, à l'année, il habitait avec l'équipage. Évidemment, je demandais l'hospitalité puisque c'était gratuit, donc je n'avais aucun frais. Et donc là, j'accompagnais les uns et les autres au détour d'un couloir. On croisait un passager qui nous prenait parfois de haut ou simplement était surpris et puis offrait un café. Et puis on était parti dans 2 heures de discussion. Donc c'est vrai que c'était des moments de causerie.
Donc causer avec des passagers et essentiellement avec l'équipage.
Et vivre au quotidien avec l'équipage.
Vous étiez un peu le curé des soutes quand même, hein?
Voilà, bien sûr, j'habitais avec eux en soute, je mangeais avec eux, je partageais leur quotidien.
Et tous les soirs, donc vous écriviez l'expérience de la journée.
Voilà, je tenais mon journal de bord.
Ce monde, Père Thomas Ziegler, que vous décrivez, c'est le monde d'abord de la démesure. Démesure des bateaux, des mesures du divertissement, des mesures du bateau. Alors là, je pense à Harmony of the Seas, c'est ça?
Voilà, tout à fait.
Qui est l'un des plus gros bateaux du monde, qui appartient à la Royal Caribbean.
Oui, tout à fait.
362 mètres de long, 227 000 tonnes, 18 étages, 24 ascenseurs, 20 000 repas par jour.
Oui, oui.
Ça veut dire combien de passagers, ça?
9 000 personnes en tout. La capacité maximale est de 9 000 personnes, équipage inclus. Et c'est vrai qu'il y a un membre d'équipage pour 3 passagers, donc il y a à peu près 2200 membres d'équipage pour 6600 passagers.
Ouais. Donc ça, c'est la démesure de ce qu'on appelle parfois, c'est pas très sympathique, mais c'est HLM de la mer. Vous
oui,
trouvez ça méprisant?
Oui. Alors, Disons que j'avoue que l'Oasis of the Sea, cette série de bateaux, n'est pas, comment dire, tellement répulsif par rapport à l'HLM de la mer. C'est-à-dire que c'est tellement grand qu'il y a de l'espace pour ces 9000 personnes. Tandis que la compagnie Costa Croisière et MSC Croisière sont en train de construire des bateaux dont la densité au mètre carré est beaucoup plus forte. Et là, vraiment, c'est un HLM de la mer où il y a beaucoup moins d'espace pour énormément de gens. Et cela m'inquiète beaucoup parce que, en fait, ils ont choisi de passer d'un membre d'équipage pour 3 passagers à un membre d'équipage pour 4 passagers. Et je ne peux pas imaginer qu'est-ce que ça doit être de travailler sur un tel bateau? Parce que lorsqu'on a un membre d'équipage pour 3 passagers, on travaille déjà beaucoup, 14 heures par jour, 7 jours sur 7, pendant 8 mois. Eh bien, alors là, quand il y a un membre d'équipage pour 4 passagers, mais comment on fait? J'arrive pas à l'imaginer. Mais ça va exister, là, dans quelques mois.
27 millions de passagers sur ces bateaux de croisière par an. Et oui. Vous dites que ce chiffre va aller en s'accroissant.
Oui, l'industrie de la croisière est en expansion, rien ne l'arrête. La crise de 2007 que tout le monde a connue, ne l'a pas arrêtée. Rien n'arrête cette industrie. C'est une industrie qui a vraiment le vent en poupe, qui crée énormément de travail. Si vous voulez, mon propos, c'était jamais de m'occuper de ce mode de fonctionnement. C'est vrai que c'est critiquable, hein, c'est le capitalisme dans toute sa splendeur. Pour moi, c'est un nouveau continent qui a été créé de toutes pièces, mais ce qui m'a toujours intéressé, c'est d'être auprès de l'homme, d'être un frère universel pour ces hommes et ces femmes que je peux croiser sur ce nouveau continent, sur ces paquebots.
Alors, parlons déjà de ces passagers, hein, avant de parler effectivement de tous ceux qui travaillent en soute, j'allais dire, de tout ce personnel. Les passagers, ce besoin de divertissement extrême, parce que la journée, la façon dont elle est conçue, ne laisse quasiment aucune place au silence, à la méditation évidemment, même au regard des flots devant soi. Ce qui est autrefois les croisières, hein, dans les années 60, on regardait la mer. Là, vous décrivez un monde où tout se passe à l'intérieur, à travers des casinos, des jeux multiples, etc.
Disons que ça devient le cas de plus en plus. Cependant, il y a toujours moyen de trouver un moment de silence dans sa cabine. Si nous avons la chance d'avoir un balcon, de se mettre sur le balcon et de contempler la mer en silence, ou alors d'aller là où on peut faire le tour du bateau, c'est souvent la piste de jogging, mais qui correspond donc à l'issue de secours, au cas où il y a un problème. Et souvent, cet emplacement est très désert et très calme. Et donc, il y a toujours moyen de trouver des temps de silence et de recul et de méditer. Mais c'est vrai que de plus en plus, on voit dans ce qui est offert sur ces grands mastodontes, de véritables parcs d'attractions où il faut à tout prix occuper tous ces passagers qui, a priori, on pourrait croire, ne savent pas s'occuper eux-mêmes. Alors, évidemment, ça ne correspond pas à tous les passagers. Il faut être honnête. Il y a des passagers qu'il faut savoir occuper. Et puis, il y a des passagers qui sont indépendants et qui savent s'occuper. Sur un bateau de croisière, vous avez toutes les réalités qui existent. Et l'industrie de la croisière tient compte de cela. Mais évidemment, remarque pour son propre profit que demain, il va falloir construire des bateaux avec de plus en plus d'activités.
C'est une industrie, l'industrie de la croisière.
Oui, c'est une véritable industrie. On voit maintenant des pistes de karting sur les bateaux de croisière ou de l'acrobranche.
Une patinoire.
Et même une patinoire. Donc, on se pose la question si le passager ne sait plus s'occuper soi-même. Quoi. Mais encore une fois, pour être honnête, il y en a parmi ces centaines de passagers qui savent très bien ne pas profiter de tout cela et vivre une semaine paisible avec un livre ou autrement. Love, exciting and new, come aboard, we're expecting you. And love, life's sweetest reward, let it flow, it floats back to you.
Vous parlez d'un concentré d'humanité qu'il y a sur un paquebot. Qu'un paquebot est un concentré d'humanité.
Tout à fait. C'est vraiment un microcosme de notre univers sur Terre. On rencontre tout, absolument tout. J'ai rencontré toutes sortes de passagers, de tout âge, de toute culture, de toute confession, de toute philosophie, de toute pensée, de tout budget aussi. Il y a parfois des personnes d'une couche sociale très simple qui a gagné une croisière et qui se retrouve là, un peu perdu parfois. Mais on rencontre vraiment toutes sortes de personnes. Et j'ai passé des moments formidables avec ces passagers. Vous savez, il y a des personnes qui viennent en vacances et qui n'ont pas vraiment de problème et qui viennent simplement s'amuser ou se reposer. Mais vous avez aussi des personnes qui viennent célébrer un anniversaire de mariage ou qui viennent célébrer des fiançailles et qui vous demandent de passer un moment de prière avec eux. Mais vous avez aussi des personnes qui sont en dépression ou qui sont en fin de vie ou qui sont en instance de divorce ou qui veulent sauver un mariage. Vous avez vraiment toutes sortes de cas de figure. Et donc, voilà, lorsqu'on a l'occasion, par hasard un petit peu, au détour d'un couloir, de les croiser, eh bien, ils vous agrippent, ils vous sollicitent, et vous passez un moment avec eux, dans la confidence parfois, et on va parfois même très très loin dans la confidence.
Alors, vous parlez d'un monde très hiérarchisé, extrêmement hiérarchisé. Vous avez fait le choix, effectivement, de ne plus être dans l'état-major, mais au contraire avec le personnel. Ce personnel, c'est un peu compliqué parce qu'il vient des pays du monde entier. Comment réussissiez-vous à rentrer en contact avec eux dans la mesure où, bon, il y a la question de la barrière de la langue, hein. Par exemple, il y a les Pakistanais, les Indiens, les Philippins, les Mauriciens. Le monde entier est représenté.
Oui, alors en fait, comme la langue de la sécurité à bord, c'est l'anglais, on essaye tous de parler anglais comme on peut. Et donc, on utilise cette langue pour communiquer, à moins qu'on sache quelques langues étrangères. Mais c'est vrai qu'on utilise essentiellement à 80% l'anglais pour se communiquer. Et ça nous permet de s'apprivoiser mutuellement. Parce qu'il s'agit pas simplement que je les apprivoise, il s'agit aussi que eux m'apprivoisent et qu'ils voient en moi une figure neutre où ils peuvent se confier. Et c'est vrai que lorsque je me suis promené comme ça au long cours en col romain à bord du Bleu de France et bénévolement, cela les a beaucoup touchés. Et très vite, ils m'ont adopté. Très vite. Et ils me sollicitaient régulièrement pour me parler de leur famille ou de leurs problèmes à bord du bateau.
Alors, ce qui ressort effectivement de ce que vous écrivez, de la vie de ces travailleurs de la mer, hein, des paquebots, c'est leur fatigue, leur solitude, le mal du pays. Beaucoup vous parlent de sacrifice.
Oui, bien sûr, c'est un grand sacrifice de partir sur un bateau comme ça, parce que aussi, c'est une grande responsabilité. Ils sont envoyés par leur famille, ils ont été élus en quelque sorte par leur clan familial pour apporter de l'argent. Et donc, ils ont été envoyés, élus par leur clan familial sur ces bateaux de croisière pour vivre cette expérience qui est difficile à vivre. Et donc, ils ont cette responsabilité d'apporter de l'argent, ce qui ne marche pas à tous les coups. J'ai rencontré des membres d'équipage lors de leur premier contrat qui ont fait un burn-out, qui se sont retrouvés atterrés dans leur cabine, incapables de travailler. Et c'est dramatique parce qu'en fait, c'est un grand investissement financier, un premier contrat pour eux. Et donc, ils repartent chez eux avec de grandes dettes, vous voyez. Donc, c'est un véritable drame. Heureusement, ça n'arrive pas trop souvent, mais ça arrive.
500 euros, c'est le salaire mensuel.
Actuellement, le salaire minimal il me semble que c'est plus ou moins 500 euros, oui.
Parce que ce sont des paquebots qui sont sous pavillon de complaisance, donc voilà. Bahamas.
Tout à fait.
Ils sont Libéria.
Le règlement est très libre. Chaque compagnie maritime a son règlement. L'Organisation mondiale du travail ou maritime a essaye d'influer, mais c'est pas évident. Il y a énormément dans cette industrie de liberté. Et donc, il n'y a pas de salaire minimal officiel aujourd'hui. Les compagnies peuvent établir leur barème comme ils le souhaitent.
Vous écoutez Religion du Monde. Notre invité est le père Thomas Ziegler pour son livre « Les bateaux de l'éphémère, un curé à bord » et c'est publié aux éditions Salvator. Alors vous, le curé à bord précisément, vous allez écouter, comme Charles de Foucault, on parlera de Charles de Foucault, votre maître spirituel, vous allez écouter Vous allez aussi ponctuer la vie, hein, les quelques temps de j'allais dire de repos de ces travailleurs, ponctuer d'événements particuliers. Vous allez fêter un anniversaire, par exemple. Oui. Vous allez organiser, bien sûr, des messes pour des fêtes religieuses.
Oui.
Mais les anniversaires, ça, c'est important.
Oui. Vous savez, sur un bateau de croisière, on est tous les uns sur les autres. Et le fait d'être comme ça, de se côtoyer d'une manière aussi proche, crée, en fait,
Vous voulez dire que tout est amplifié.
Voilà, tout est amplifié. Lorsqu'on est heureux, on est vraiment dans l'exultation. Et lorsqu'on est triste, on est presque dans la dépression.
Donc l'anniversaire, il va être fêté.
Et l'anniversaire va être fêté avec des ballons, avec des cotillons, etc. Je veux dire, d'une manière, comme on fête l'anniversaire d'un enfant de 5 ans, en fait. Vous voyez? Donc, ça vaut pour les joies, comme un anniversaire, comme ça vaut pour des peines, pour un deuil, ou pour un problème familial, etc.
Vous consolez ?
Et donc, on est là pour fêter avec eux et pour consoler aussi, bien sûr, tout à fait.
Lorsqu'il y a des deuils dans une famille,
voilà,
et qu'on
peut
pas...
on s'en occupe et bien souvent, on organise aussi une quête hein, pour soutenir la famille, etc., avec tous les membres d'équipage. Il y a une grande solidarité. C'est une vraie famille. On vient de 80 pays différents et on se retrouve sur un seul et même bateau. On est tous dans la même barque, comme on dit. Et ça crée une communion intense qui est certainement due au fait aussi que cette cohésion sociale est due au fait que chacun a son rôle sur le bateau. Il n'y a pas de chômeur. Donc chacun a son rôle, chacun a sa place, chacun a une existence pour le bateau, pour le fonctionnement du bateau, pour le bon fonctionnement des choses, de la vie à bord. Et donc cette cohésion sociale crée une communion intense entre eux, même s'ils viennent de cultures et de confessions différentes.
L'alcool à bord.
L'alcool est un souci,
est un
bien
souci.
Sûr. Mais l'argent est un souci. C'est-à-dire que
L'argent.
Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, ils vont dépenser cet argent qu'ils gagnent au bar de l'équipage. Il y en a certains qui sombrent dans l'alcoolisme, ou alors qu'ils vont. Vous savez, ces personnes doivent bien souvent apporter plein de cadeaux à leur retour. Donc, ils ont un gros souci pour épargner et construire un nouveau projet pour ne pas rester à bord toute leur vie, vous voyez. Et ils ont beaucoup de mal à apprendre, justement, à quitter le bateau, à épargner, pour rester à un moment donné avec leur famille à terre. Je remarque que beaucoup d'entre eux, vont gâter leur famille lorsqu'ils reviennent, vont dépenser leur argent plus qu'il ne faut. Et du coup, se contraignent à rester d'année en année sur le bateau, enfin, dans ce type de vie. Vous voyez? Et en plus de cela, il faut vraiment dire aussi qu'il y a une sorte d'addiction à la mer. Alors, pas plus tard qu'il y a quelques jours, je visitais un bateau où je connais quelqu'un depuis longtemps qui me disait, voilà, il s'est marié, sa femme attend un bébé, mais au bout de 5 jours à la maison, il a envie de retourner sur le bateau. Et donc, il a cette addiction, et ils sont très nombreux à avoir cette addiction. Et donc, s'ils n'arrivent pas à s'arrêter au bout de 5 ans, il faut absolument qu'ils s'arrêtent au bout de 10, parce que sinon c'est fini. Ils ne s'arrêteront plus. Et je connais par exemple un Philippin de 67 ans qui est toujours à bord. Et après avoir supporté toute sa famille au niveau de ses enfants, maintenant il supporte ses petits-enfants. Vous voyez?
Et vous, Père Thomas Ziegler, vous semblez un peu addict aussi.
Ah oui, complètement.
Hein, vous assumez complètement. Le mot.
Ah
hein.
Oui, j'assume pleinement. J'assume pleinement, tout à fait.
Vous allez revenir un jour parce que bon, vous avez eu des gros soucis de santé.
Oui. Alors c'est pas le projet. Revenir n'est pas le projet. Ce que j'aurais vraiment souhaité, c'est de travailler dans les bureaux d'une compagnie maritime, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de choses est décidées à terre et que même le commandant à bord du bateau aujourd'hui n'a plus beaucoup de pouvoir décisionnel. Et voilà, l'autre jour, j'étais encore à Genève, dans les bureaux de MSC Croisières, et dans les bureaux des ressources humaines, on me disait, mais vous savez, aujourd'hui, on construit délibérément les bateaux avec pas suffisamment de cabines pour l'équipage. Autrement dit, on n'a pas de place pour vous. Mais c'est très grave de dire ça, parce que j'espère que c'est faux. Vous vous rendez compte, délibérément construire les nouveaux bateaux avec pas suffisamment de membres, de cabines pour les membres d'équipage.
Sachant qu'actuellement, donc, une cabine, c'est pour deux personnes.
Hein. Oui, tout à fait.
Sur la leçon spirituelle, en quelque sorte, que vous pouvez tirer de cette industrie des croisières, père Thomas Ziegler, il semble que vous décriviez un monde, effectivement, où le divertissement vient combler une grande absence spirituelle. Et vous parlez même de la préfiguration, que ces paquebots, en quelque sorte, seraient la préfiguration d'un monde sans Dieu.
Oui, tout à fait. Alors que ce soit par le divertissement ou le travail pour les membres d'équipage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour la spiritualité. Il n'y a pas vraiment de place pour réfléchir. On crée un monde de divertissement, on crée un monde de travail, et ça s'arrête là. Et donc on ne pense pas que l'homme est bien plus que cela, et nécessite beaucoup plus que cela. Il a besoin de se nourrir de spiritualité aussi. Et ça crée des manques. Et donc j'essaie d'expliquer à l'industrie de la croisière qui n'ont pas à avoir peur que la spiritualité n'est pas un syndicat par exemple, mais que la spiritualité peut bonifier l'homme pour qu'il travaille mieux en ce qui concerne les membres d'équipage et pour que les passagers soient plus heureux et plus épanouis à bord des bateaux. Donc à mon avis c'est un gain publicitaire pour les passagers, mais c'est aussi un gain financier pour l'équipage d'avoir un homme de référence qui soit simplement là pour être attentif à cette nourriture spirituelle. Et le prêtre a la formation interreligieuse suffisante pour être au service des musulmans, des bouddhistes, des hindouistes, des juifs ou des protestants, des orthodoxes.
Vous vous comparez à ce qu'a fait Charles de Foucault dans le désert. Vous, c'est sur la mer. Charles de Foucault, c'était effectivement à Tamanrasset, avec les Touaregs. Charles de Foucault est devenu votre maître spirituel.
Il est devenu ma référence.
Votre référence.
Voilà, tout à fait. Parce que son rapport à l'autre m'a beaucoup marqué. Et j'ai utilisé vraiment ce qu'il dit pour le vivre à bord et ajuster mon comportement par rapport à l'autre à bord du bateau de croisière.
C'est-à-dire pas de prosélytisme,
exactement,
pas de conversion.
Tout à fait.
De l'écoute, vivre.
De la causerie. Voilà, on cause, tout simplement.
Merci Père Thomas Ziegler. Je rappelle le titre de votre livre, Les bateaux de l'éphémère, un curé à bord, et c'est publié aux éditions Salvator. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Apolline Verlon-Raison vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.